Vous écoutez France Culture.
Tandis qu'à l'aube, ce matin s'installait place de la Concorde à Paris face à l'obélisque, un menhir supposé gaulois en hommage au 50e anniversaire de l'invention d'Astérix, tandis que le canard enchaîné ironise en une sur l'identité nationale nouvel appât pour l'électeur d'extrême droite en titrant « Pour la pêche aux voix, Sarko sort sa Gaule ». Poursuivons notre semaine sur l'histoire des Gaulois. Après avoir fait le point lundi sur l'état de nos savoirs contemporains sur la Gaule avec Christian Goudineau, titulaire de la chaire des Antiquités nationales au Collège de France, après hier avoir abordé la réinvention des Gaulois au XVIe siècle par des juristes, historiens et humanistes, arrêtons-nous ce matin sur le 19e siècle qui redécouvre à la fois Gergovie, Alésia et Vercingétorix. Un moment particulier de mise en ligne de notre histoire nationale qui fait cohabiter trois grandes figures au moins, par exemple celle de Vercingétorix, de Charlemagne ou encore de Jeanne d'Arc. Pour en parler, en compagnie d'Anaïs Quien de la Fabrique de l'Histoire, Colette Beaune, professeur émérite à Paris 10 et auteur d'un livre fondamental sur la naissance de la nation France à la fin du Moyen-Âge qui vient d'être republié chez Gallimard dans la Bibliothèque des Histoires, mais également auteur d'une grande biographie de Jeanne d'Arc et d'une Jeanne d'Arc Vérités et Légendes chez Perrin. Laurent Olivier, conservateur du département des Âges du Fer au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et auteur au seuil d'un livre très important sur l'histoire de l'archéologie et sa vision, Le sombre abîme du temps, et Olivier Buxenschütz, directeur de recherche au CNRS. Quelle reconnaissance pieuse ne devons-nous pas à nos ancêtres ? C'est pour nous qu'au temps préhistorique d'obscurs bienfaiteurs ont trouvé l'usage du feu, asservi les animaux domestiques, découvert les métaux, cultivé le blé, etc. C'est pour nous, Français, que Vercingétorix s'est dévoué et qu'il est mort, que Charlemagne a fixé les invasions, que les chevaliers ont fait la croisade, que les trouvères ont créé la langue française, que les communes ont inauguré la liberté municipale, que Jeanne d'Arc, sur son bûcher, a incarné la patrie française, que de grands rois et de grands ministres l'ont accru et fortifié. Et sans la Révolution française, que serions-nous devenus ? Voici un extrait des textes et récits d'histoire de France de Pierre Foncin, 1873, chez Armand Collin. Quand vous entendez ce texte, Colette Beaune, vous qui êtes spécialiste d'histoire du Moyen-Âge, mais qui avez parcouru comme cela toute l'histoire de notre pays, vous vous dites, c'est un moment particulier, cette deuxième moitié du 19e siècle, qui tente comme cela de relier l'homme préhistorique, Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc et les révolutionnaires français.
Oui, c'est un moment où le roman national succède au roman monarchique qui avait été mis en place jusqu'à la Révolution et qui était simplement une histoire des rois. Et au contraire, à partir de 1850 et surtout du fait que désormais l'histoire devient une matière enseignée dans les collèges et enseignée dans les écoles primaires, ceci en 1867, il est nécessaire de proposer aux écoliers une vision globale de l'histoire. Et cette vision globale de l'histoire fait que tous les événements de l'histoire antérieure sont réinterprétés en fonction de la période 1867 et doivent donc être présentés comme ayant tous une unité et allant vers un seul but, être la garantie de la France du Second Empire ou de la France de la Troisième République suivant l'époque où l'on est.
Alors oui, parce que souvent on a tendance à citer donc Lavis et son petit Lavis, mais on oublie Victor Duruy et donc ministre de l'Instruction publique sous Napoléon III, qui est celui qui est à l'origine, pourrait-on dire, de ce début de mise en ligne de l'histoire nationale, Colette Beaune.
En fait, c'était pas du tout si évident parce que au début du 19e, l'abbé Anquetil, qui écrit en 15 volumes une histoire pas terrible, il faut le dire, de la France, mais qui a eu je ne sais combien d'éditions jusqu'en 1850, et le premier a commencé par un chapitre sur la Gaule. On est donc dans les années 1801-1805, par là. Et c'est une idée tout à fait révolutionnaire, puisque désormais la Gaule s'enchaîne à Clovis, Vercingétorix, Clovis deviennent liés, alors qu'à l'origine, évidemment, ils ne le sont pas du tout. Et puis, là-dessus vient Michelet, qui est, vis-à-vis des Gaulois, finalement, plutôt un peu réticent, parce qu'il pense, lui, qu'il y a des Celtes, il y a des Ibères, il y a des Grecs, il y a des Romains, et que donc la nation s'est formée par toute une série de mélanges ethniques au cours du temps, qu'elle n'existe pas dès l'origine, et que donc les Gaulois ne sont pas nous, pense-t-il, lui.
Oui, et c'est en ça où il y aurait presque une vision plus moderne que certains plus tard que lui,
qui lui ont succédé. Par exemple, si vous voulez. Et donc, pour lui, les Gaulois ne sont pas une nation. Les Gaulois sont une étape comme une autre. Avant, il y en eut d'autres. Après, il y a la conquête romaine qui, pour lui, est tout aussi importante. Et la nation, pour lui, elle n'apparaît qu'avec Jeanne d'Arc. Parce que c'est à ce moment-là que le peuple entre dans l'histoire, que le sentiment national apparaît, pense-t-il, et que donc la nation existe, parce que la nation, pour lui, c'est le peuple. Avant, il y a des tas de choses, mais qui ne sont pas la nation France, pour lui.
Alors, Laurent Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur, je l'ai dit, du Sombre Abîme du Temps, qui tente de réfléchir justement à la façon dont l'archéologie participe à la construction d'une identité, au XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Ce que vient de dire Colette Beaune, c'est intéressant parce qu'il y a aussi d'autres petits surgeons qui pourraient donner des bourgeons plus tard et puis qui ne le font pas. Par exemple, Sieyès, vous citez, vous, dans Qu'est-ce que le tiers-état, une sorte de diatribe de Sieyès qui dit qu'effectivement, les Gaulois, c'est important pour l'histoire de la nation française.
Mais il y a une sorte de renversement de l'histoire qui se produit au moment des Lumières et de la Révolution française, qui est une rupture justement avec l'histoire dynastique et qui pose le problème de la légitimité des Francs.
Alors il faut justement
domine, mais le véritable peuple, la véritable majorité, c'est les gens qui sont nés ici, c'est les Gaulois.
Alors parce qu'il faut dire effectivement, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission d'hier sur les Gaulois, qu'au XVIe siècle, il y a une tentative de certains juristes, certains humanistes autour du roi ou à côté du roi de jouer légitimer justement cette question de la Gaule et des Gaulois en contrepartie ou plutôt en opposition avec une histoire qui serait une histoire liée à l'histoire romaine, à l'histoire de Troie, etc., que ça a échoué au début du XVIIe siècle et qu'il faut donc attendre la fin du XVIIIe siècle, selon vous, Laurent Olivier, pour que ça renaisse, c'est cela ?
Et puis il y a une date très importante, vous avez parlé de 1867, c'est la date de la grande exposition universelle. C'est aussi une période pendant laquelle, c'est une période d'extrême modernité, c'est le triomphe de la révolution industrielle, et on se pose aussi la question de savoir, après toute une série de découverte bouleversante des années 1850-60, Néandertal, l'homme préhistorique, Troie, Schliemann, etc., toutes les grandes civilisations méditerranéennes, on se pose le problème de l'histoire de la civilisation. Comment ça se passe? Comment ça évolue? Quelles sont les origines véritablement de la civilisation? Et puis quel rôle joue l'époque gauloise par rapport à ça, qui est véritablement la transition de l'état barbare, entre guillemets, vers l'état de civilisation? Donc c'est pourquoi aussi il y a aussi cette révision de l'histoire nationale et de l'histoire culturelle à l'aune de la révolution industrielle.
Olivier Buxentius, vous êtes donc directeur de recherche au CNRS, archéologue. Sur ces questions-là, il faut tout de suite citer tout de même le nom. On a cité à propos de Victor Duruy, de Napoléon III. Tout de même, il y a une très grande importance d'un souverain comme Napoléon III dans cette volonté un peu affirmée en tous les cas de redire il y a des sources gauloises à notre histoire nationale. Allons y voir d'une certaine façon.
Tout à fait. Alors le rôle de Napoléon III, il a de multiples facettes, je ne les connais pas toutes. Moi, je connais surtout l'aspect archéologique.
C'est déjà important.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est que Napoléon III a fait faire des fouilles qu'on appelle dans notre jargon stratigraphiques, donc très très modernes pour l'époque, et qu'il a prouvé effectivement ce qu'il cherchait, c'est-à-dire la présence d'un certain nombre de sites césariens qui n'étaient connus que de façon très vague à ce moment-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas cru à ces fouilles et qu'il a fallu reprendre une série de campagnes dans les années 1950-2000 pour vérifier qu'il avait raison.
Alors, pourquoi est-il si obsédé par cette volonté, justement, de se conforter à cette guerre des Gaules, au récit de César? Je ne sais pas, Colette Beaune, Laurent-Olivier, Colette Beaune.
Il faut peut-être dire que, d'ailleurs, Napoléon III finance lui-même les fouilles sur sa cassette personnelle et sur ses biens personnels. Donc, il y a un engagement, effectivement, extrêmement puissant de sa part dans ses premières fouilles des sites gaulois.
Colette Beaune.
Je pense d'abord qu'il y a eu maintien de la mémoire. Enfin, non, il s'agit d'une mémoire savante. je ne dis pas que tout le monde savait, des sites gaulois, en particulier à Sens, où il y a, durant toute la période médiévale, des textes qui parlent de Brennus. Il y a Éric d'Auxerre au Xe. Et puis, par la suite, on sait toujours, en gros, où est que Clermont, c'est Gergovie, ou pas très loin, en tout cas. Mm-hmm. Et au XVIIe,
vous voulez dire une sorte de mémoire populaire qui ne serait pas...
Non, une mémoire de savant.
De savant.
Ils lisent toujours César, ils sont donc capables de situer à peu près. Et on sait qu'un certain nombre de gens, 16e, 17e, vont visiter Gergovie, Alésia. Alors que vont-ils visiter exactement? J'en sais rien. Mais il n'y a pas de disparition.
Ah d'accord, ça n'est pas c'est ça, ça n'est pas un moment où il y aurait une sorte de d'affaissement complet de la mémoire et une renaissance.
Il n'y a pas une disparition complète. Napoléon III va vérifier des hypothèses qui sont connues.
Laurent Olivier.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le désir du souverain, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour faire une archéologie. Et quand on regarde moi, je m'intéresse particulièrement aux pratiques des archéologues, comment les archéologues travaillent sur le terrain. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ces premiers archéologues des années 1860 ne trouvent rien. Ils sont incapables de reconnaître quoi que ce soit. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent découvrir. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. On travaille avec des ouvriers qui sont seulement des terrassiers. Et on organise tout ça sous la férule de militaires qui font marcher ça à la baguette. Mais ça ne fait pas de l'archéologie. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, il y a une génération, on pourrait les appeler des ouvriers paysans fouilleurs, qui vont être les contremaîtres, qui vont organiser ces fouilles. Et Alésia, par exemple, c'est un personnage complètement inconnu aujourd'hui qui s'appelle Victor Pernet. On connaît Stoffel, on connaît Crully, etc. Qui va mettre en place ces fouilles. Et c'est une connaissance intuitive du terrain, c'est un savoir de prolétaire, de terrassier, qui ne peut pas se communiquer à cette génération de savants qui sont pétris de culture gréco-romaine, etc., et qui, eux, sont obsédés par fait de donner à Napoléon III le plan des lignes romaines. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a toute une série de techniques qui, en fait, seront complètement réinventées plus tard, au moment de l'archéologie aérienne, au moment des prospections de la fin du XXe siècle.
Ça veut dire qu'il y a deux savoirs qui cheminent en parallèle et qui ne se rencontrent pas. Un savoir savant, donc de l'ivresque fondée sur les textes de César. Et de l'autre côté, dites-vous, des gens qui, par leur pratique, apprennent quelque chose, mais n'arrivent pas à communiquer avec ces intellectuels du 19e siècle.
Ils sont en train de constituer une connaissance archéologique, une connaissance du terrain qui ne peut pas communiquer et qui est même dominée par le savoir historiciste des archéologues qui cherchent uniquement dans l'archéologie le témoignage des textes antiques. Et ça, c'est un problème qui continuera à empoisonner la proto-histoire jusqu'à aujourd'hui. Faire de l'archéologie en simplement comme une auxiliaire de l'histoire, comme quelque chose qui illustre une réalité connue par les textes historiques.
Olivier Buxenschütz.
Oui, alors en fait, il faut bien se rendre compte que les militaires de l'époque sont des gens qui connaissent le latin extrêmement bien, qui connaissent le texte par cœur, qui ont déjà repéré Alésia quand ils ont levé les cartes d'état-major dans les années 1840. Et enfin, le texte, ils ont repéré l'Alésia que l'on connaît aujourd'hui. Et certes, s'ils ne sont pas, s'ils savent pas, comme le dit Laurent, ce qu'ils vont trouver, c'est des gens qui ont tout de même l'habitude, qui connaissent ce document. Et il ne faut pas oublier que Napoléon Ier a fait une édition de Jules César, enfin a commenté en tout cas Jules César. Et jusqu'à cette époque, et sans doute pas longtemps après, le texte de la guerre des Gaules est aussi un traité militaire. Et ça explique pourquoi, peut-être, alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Napoléon III s'est intéressé à César et à cet aspect-là des choses. Mais l'aspect archéologique proprement dit, Camille Julian, 40 ans après, va dire « ça ne m'intéresse pas, je suis sur le site d'Alésia, ce qui m'intéresse c'est l'ambiance du site, c'est le texte de César, mais les données des archéologues, on les laisse de côté ».
Oui, alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que cette question des Gaulois, c'est une sorte d'aller-retour entre données archéologiques d'un côté, données textuelles, qui se succèdent, se superposent et qui, quelquefois, ne communiquent pas entre elles parce qu'effectivement, le retour de Camille Julian, c'est le retour au travail sur le texte, Colette Beaune, et non pas au travail sur le terrain.
C'est-à-dire que pendant très longtemps, les historiens ont été incapables, je vois bien, mes chroniqueurs médiévaux, ils ne sont pas les seuls, sont incapables de savoir si un monument est romain ou s'il est gaulois. Et lorsqu'ils trouvent une tombe, ils disent « voilà, c'est une tombe, il était très grand, il avait des armes, il avait des bijoux, c'est un gaulois ». Mais en fait, ça peut être tout autre chose qu'un Gaulois, seulement ils n'ont pas les techniques nécessaires pour savoir s'il s'agit de quelqu'un d'âge de fer, d'un Gaulois, ou situer chronologiquement la personne.
Et pourtant...
Mais déjà, quand même, ils s'y intéressent. Ils essayent de dire « eh bien, on a trouvé ça ».
Et pourtant, on va finir par avoir besoin de les représenter, ces Gaulois. Un extrait des lieux de mémoire sur justement la Gaule et les Gaulois par Geneviève Laloès dans une réalisation d'Anne-Pascale Desvignes autour de la figure d'Alésia et du lieu d'Alésia. Les Gaulois dans la peinture d'histoire vers 1840 par Maud Charasson.
Le Gaulois, il faut savoir, hein, au départ, c'est un conquérant.
Ah, on le considère comme un conquérant.
Ah oui, alors il y a deux grands versants hein, au niveau des Gaulois. Un premier versant, le conquérant. Donc c'est lui qui quand même envahit et puis Rome en 379 avant Jésus-Christ, hein, 389 avant Jésus-Christ. Hein, c'est attesté dans les textes, hein, les historiens grecs et romains le rapportent. Donc il pille Rome. À partir de là, vous avez toute une peinture qui développe donc ce Gaulois qui arrive à cheval devant, je pense, à un tableau en particulier d'Évariste Luminé. On voit un groupe de cavaliers gaulois qui arrivent donc à cheval et qui voient au loin la ville, Rome, la ville éternelle en quelque sorte, et puis qui bon, se réjouissent de cette proie inespérée, hein, qu'ils vont piller allègrement. Donc c'est vraiment là un groupe bigarré, bon, avec leurs attributs, à savoir les tresses. Hein, le Gaulois a toujours ses tresses, ses cheveux longs. Hein, ça s'est rapporté aussi par des historiens grecs, hein, par Strabon, entre autres, et Diodore de Sicile. Ils ont leur casque à cornes et à ailes, hein, toujours pareil. Hein, c'est Diodore de Sicile qui rapporte cette histoire des casques à cornes et à ailes. Donc c'est vraiment attesté dans les textes. Et puis, ils sont torse nus. Ça aussi, c'est un attribut du Gaulois. Ils portent le torque, généralement. Autre attribut, hein, le torque, c'est ce collier. Hein.
C'est ça, le gros collier,
voilà, généralement en or, voilà, hein, en or autour du cou. Ils portent des boucliers et ils ont des épées. Hein. Et en plus, ils sont habillés généralement avec des braies et des costumes, enfin des tissus très très colorés, très bigarrés. Hein. Donc c'est vraiment le foisonnement, l'impétuosité. Le Gaulois est impétueux.
Il est musculeux.
Il est, oui. Alors bon, là vous avez de très très belles études au niveau des
anatomiques,
hein, des corps. Ce sont des corps athlétiques en plus. Hein. Le Gaulois est jeune. Ça c'est un terme qu'on retrouve. Michelet l'a beaucoup traité. Il traite les Gaulois comme des enfants. C'est un peuple jeune, c'est-à-dire que c'est un peuple qui n'a pas peur, qui est brave. Le Gaulois est brave, il aime la guerre, hein. Le Gaulois est guerrier toujours, mais en même temps il est jeune, c'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir à ses actes.
Mais alors le Gaulois est jeune, impétueux, il aime la guerre, mais il est vaincu. Et c'est assez étrange de voir, Colette Beaune, comment s'impose dans cet imaginaire de la fin du 19e siècle la figure de Vercingétorix vaincu, plutôt que celle de Brennus vainqueur, par exemple. On aurait pu imaginer d'autres figures de Gaulois pour pouvoir justement glorifier la nation France. Or, c'est celui du vaincu qu'on va chercher.
Oui, mais en fait, pendant très longtemps, les chroniqueurs ont beaucoup hésité à présenter entre Vercingétorix et Brennus, parce que Brennus, après tout, était attesté par Tite Live. Il avait un appui réel sur une tradition historique à sens où on ne manquait pas de poèmes et de chroniqueurs. Et puis, c'était l'un des personnages de Geoffroy de Monmouth et du roman d'Arthur. Mmh. Donc, Brennus, son bouclier, ses armes magiques qui allaient conquérir Rome puis la Grèce, jouissaient dans les romans en particulier d'une réelle importance. De plus, il était vainqueur. Il était quand même mieux d'être vainqueur que vaincu.
Ben oui, a priori.
Et il permettait, durant toute l'époque où les guerres d'Italie ont été d'actualité, de justifier l'existence d'un pays qui aurait été une Franco-Italia, mm-hmm. puisque Brennus était allé fonder le Milanais. Enfin,
donc. Oui, il y a toute cette question de la Cisalpine, etc.
Cette question, voilà, qui permettait de rattacher Brennus. Et donc, pendant très longtemps, Vercingétorix n'était pas du tout un héros important. Et il faut attendre pratiquement le début du 19e, mais surtout après 1870, pour que Vercingétorix passe au premier plan.
Alors, parce une France vaincue ben oui, va chercher un personnage vaincu.
Et puis, Vercingétorix avait l'inconvénient que, bon, il reposait sur César, qui était bien connu, ça c'était un avantage, mais il venait d'Auvergne. Et la France ne s'était pas construite autour de l'Auvergne, mais de la région parisienne. Et donc, il n'y avait jamais eu de personne, aucun prince, sauf le cardinal de Bourbon, en 1485, pour commander des choses sur Vercingétorix. Et enfin, surtout, il était vaincu. Et donc, pendant très longtemps, on ne s'est pas intéressé à Vercingétorix et Michelet ne s'intéresse pas encore beaucoup à Vercingétorix.
Laurent Olivier, ça c'est un tour de passe-passe extraordinaire de la fin du 19e siècle. C'est de saisir ce personnage-là, qui est donc, dirons-nous, un personnage marginal aux yeux des historiens précédents, pour pouvoir le mettre sur le pavois, alors qu'on va donc concomitamment mettre au placard la figure de Brennus.
Ce qui est fascinant, en fait, c'est la plasticité du personnage, parce qu'on peut en faire absolument tout ce qu'on veut. On pourrait en faire aujourd'hui un héros de la lutte contre l'impérialisme, par exemple. Tout à fait. On peut en faire quelqu'un qui accepte la défaite et puis qui admet de s'intégrer sagement dans un empire plus fort que lui.
Enfin, il en est mort.
On peut en faire un héros national, on peut en faire absolument tout ce qu'on veut. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la rencontre de ces potentialités avec l'histoire. Et à un certain moment, ce branchement qui s'opère pour produire un message qui, en fait, est fondamentalement une interprétation orientée des données.
Oui, très orientée. Quand on parle des Gaulois, généralement, les interprétations sont très orientées, Anaïs Kien.
Oui, d'ailleurs, c'est toute l'histoire des Gaulois qui est très plastique et qui est très malléable sur toute l'évolution de l'histoire nationale. C'est ce que vous dites, d'ailleurs, Laurent-Olivier, dans certains de vos articles, que finalement, cette histoire des Gaulois, cette archéologie des Gaulois, elle n'est pas faite.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quelque chose, pour prendre une image archéologique, qui est stratifiée. C'est fait de plusieurs couches d'interprétation. Et la première couche d'interprétation antique, elle est fondamentalement raciste. C'est-à-dire que la manière dont on représente les Gaulois dans la statuaire, on les représente comme des bêtes sauvages, nues, avec des crinières hérissées, des petits yeux rapprochés, mais vaincus. Et les témoignages de la barbarie des Gaulois, c'est très intéressant de regarder quand est-ce qu'ils sont écrits. Ils ne sont pas écrits au moment où de la grande confrontation avec les invasions d'Italie. Ils sont écrits après. Ils sont écrits essentiellement quand on est en train de les pacifier ou quand ils sont déjà pacifiés ou dominés. Et c'est là, par exemple, il y a un témoignage super dans un procès de Cicéron, hein, où on dit, mais rappelez-vous, les Gaulois pratiquent des sacrifices humains. Où ça? Quand? Là? Maintenant? À quel endroit? On ne sait pas. Et c'est toujours une barbarie qui est renvoyée dans un assez indéfini. Ils sont comme ça. On ne peut rien en faire.
C'est d'ailleurs un des grands problèmes, Olivier Bussenschus, quand on travaille sur cette question-là en tant qu'archéologue, c'est qu'en fait, on a une sorte de condensation, on le disait déjà lundi avec Christian Goudineau, de plusieurs siècles, voire d'un millénaire ou plus, en quelques années, comme cela, parce que en fait, on a le texte de César, on a très peu de textes qui peuvent donc venir en appui de ce texte de César. Et puis, d'un seul coup, ben, on se dit, voilà, c'est toute une période qu'on va ramasser en un seul petit morceau de temps, comme ça, juste avant la conquête romaine. Et on va tenter de définir, comme ça, une grande évolution temporelle sur un tout petit morceau de temps et de territoire, à savoir l'équivalent de ce qu'on appellera la France plus tard.
Oui, alors là, je pense qu'on n'en est plus du tout à une idée de l'archéologie des Gaulois du 1er siècle avant notre ère. On a maintenant une liaison avec tout ce qui s'est passé pendant le millénaire précédent. Et là, ça donne un relief complètement différent. La première rupture importante, je crois que Christian Goudineau l'a parlé lundi, c'est la fin de la croyance dans le progrès. C'est-à-dire qu'on n'a pas, bien que des théories modernes, anglo-saxonnes notamment, aient gardé cet axe-là, on se rend compte qu'il y a des avancées, des reculs par rapport à notre propre culture. Et qu'il y a surtout des divergences totales, c'est que ces cultures-là évoluent dans des sens qui ne sont pas du tout les nôtres. Alors pendant des années, des siècles, voire des siècles, on a mis les Gaulois dans l'ombre et les Romains, dans la périphérie de la Méditerranée, et on se rend compte qu'en fait, ces cultures, comme beaucoup d'autres cultures, avaient leur propre évolution, qui était tantôt plutôt urbaine, tantôt plutôt rurale, avec des religions plus ou moins marquées, plus ou moins naturistes ou plus ou moins construites, et on est en train de reconstituer leur propre histoire, et c'est pour ça qu'on est, enfin moi personnellement, j'ai une certaine agressivité vis-à-vis de l'image des Gaulois, parce que ça m'est de plus en plus étranger.
Mais c'est intéressant parce que cette image, et c'est ce qu'on disait à la toute fin de notre entretien avec Christian Goudineau, cette image des Gaulois, elle s'est forgée dans ces quelques années qui sont donc, dont on parle depuis le début de cette émission, c'est-à-dire autour du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, mais elle a été assez forte, peut-être aussi par la vertu de l'éducation républicaine, pour pouvoir résister au travail de tous ceux qui sont autour de cette table, de déconstruction, etc. Au bout du compte, c'est quand même plus compliqué aujourd'hui de parler des Gaulois que c'était compliqué, je ne sais pas, en 1890 ou en 1910, où la certitude d'avoir un corpus commun était là pour une petite durée de temps. Et aujourd'hui, évidemment, les travaux archéologiques viennent contrebalancer tout cela.
Olivier, oui, alors, de toute façon, depuis le départ et jusqu'à une date très récente, on a eu toujours deux discours qui s'entremêlaient, deux types de recherches qui s'entremêlaient. On a cherché les sites césariens et en fait, on a trouvé des villes. Et on était totalement surpris parce qu'on imaginait à l'époque que les Gaulois vivaient dans le monde rural.
Alors, ils vivaient dans des huttes et ne se réunissaient que lorsqu'il fallait se défendre. Et donc, on avait l'idée que ces sites étaient des sites temporaires, extrêmement courts dans leur durée d'occupation, parce qu'il n'y avait pas de ville, évidemment, parce que c'était donc une population essentiellement rurale. C'est en tout cas cette idée qui était dans la tête de ceux qui ont lancé les fouilles.
Voilà, et alors, en fait, même les archéologues, si vous voulez, du 19e et du 20e jusqu'à une date très récente, tout en cherchant ces sites césariens, ont trouvé une culture urbaine. Ils en ont été extrêmement surpris et ils ont commencé à construire une archéologie qui divergeait complètement de l'histoire.
Ça,
aujourd'hui, on est à un stade où on a des villes au 5e siècle avant notre ère en Europe du Nord. Donc on est complètement aussi en dehors des discussions de l'article de Christian Gaudineau dans l'histoire de la France urbaine, par exemple, qui à ce niveau-là est devenu obsolète. Et donc on a découvert, tout en cherchant les traces de César et tout en cherchant des ancêtres, on a trouvé des gens qui n'avaient pas grand-chose à voir avec nous, à la limite, et qui surtout avaient une culture complètement indépendante, influencée certes par la Méditerranée, mais comme peuvent l'être les Indiens d'Amérique par les Européens ou des choses comme ça.
Alors Laurent-Olivier, quand on s'intéresse à ceux qui, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, outre ceux qui, d'un côté, cherchent sur les textes à comprendre ce qu'était cette civilisation gauloise, mais ceux qui se mettent les mains dans le cambouis et vont donc fouiller ces sites archéologiques, qui sont-ils, par exemple, sur Alésia, sur Gergovie, qui sont ces chercheurs qui vont, ces premiers archéologues, pourrait-on dire, des années 1860-1880, qui vont se mettre à chercher les traces, justement, de cette Gaule qui n'existe plus que dans quelques textes.
Alors, il y a un premier groupe de chercheurs qui se réunit sous l'égide de la Commission de topographie des Gaules, une commission qui est créée, je crois, en 1858, et son objectif, c'est justement de faire un point sur nos connaissances archéologiques sur la Gaule. Pour l'essentiel, ce sont des lettrés, ce sont des bourgeois ou des aristocrates parisiens.
Membres de sociétés savantes.
Oui, certains d'entre eux fréquentent la cour, comme Félix de Soulcy, par exemple. D'autres sont des militaires, général Creully, lieutenant-colonel de Coignard. D'autres sont des élèves de l'école d'Athènes, comme Alexandre Bertrand, qui sera conservateur du musée des Antiquités nationales. Et puis, pour fouiller, on fait appel à des terrassiers, en fait. Et on se rend compte qu'on a besoin d'organiser ce travail. Et donc, on utilise ce qu'on appelle...
On invente l'archéologie en même temps qu'on invente les sites, d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas de technique archéologique.
On n'a pas de technique archéologique. Et pendant longtemps, les archéologues sont des antiquaires, c'est-à-dire c'est des collectionneurs. Et ils éprouvent le besoin d'être sur le terrain pour extraire eux-mêmes les pièces qui les intéressent. Et donc, effectivement, ce moment où on cherche... La confrontation avec le lieu, on est obligé d'en passer par l'invention d'une technique archéologique. Et ça, c'est le fait d'une génération, c'est généralement des ouvriers ou des paysans, donc c'est des gens qui ne sont pas forcément lettrés, qui n'ont pas laissé de mémoire. Mais il y a toute une série de chercheurs. Bon, il y a Victor Pernet à Alésia, il y a Jean-Baptiste Couneil pour les premières tombes, des tombes gauloises de la Marne. C'est un ouvrier de Saint-Mange, à la frontière belge. On a aussi Abel Maître, à Saint-Germain-en-Laye, c'est un élève de Bartholdi, c'est un sculpteur, c'est un manuel, c'est lui qui organise les premières fouilles. Et ce sont ces gens-là qui, en fait, inventent les techniques de terrain.
Et vous qui avez travaillé longtemps à Bibracte, enfin au Mont-Beuvray, donc Olivier Buxenschütz, il y a qui sur le site de Bibracte à ce moment-là, justement?
À cette époque-là, alors, c'est l'époque de Jean-Gabriel Bulliot, donc qui est un commerçant très cultivé de la ville d'Autun, qui va localiser la Bibracte de César à Bibracte et non pas à Autun, comme on croyait à cette époque. Et donc c'est quelqu'un qui va effectivement chercher au-delà des textes les preuves du terrain. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'il va effectivement se confronter aux données matérielles. En fait, il sera précédé d'un an par... le fouilleur de Mursins, qui lui est un topographe, qui a déjà identifié le mur gaulois de Mursins comme un mur, le même mur que celui qui est décrit par César pour Avaricum. Et Bulliot va reprendre cette hypothèse. Donc c'est vrai que, comme le disait Laurent, l'interprétation archéologique, elle part de la base, elle part des gens qui sont sur le terrain, tantôt qui sont des ingénieurs ou des gens très simples, tantôt des gens comme Bulliot un peu intermédiaires, mais qui ne sont pas des savants au sens parisien du terme.
Et Colette Beaune, les historiens qui établissent les manuels justement qui vont servir à l'édification républicaine de la France, ils ont connaissance de ces recherches ou ils utilisent simplement les textes, disons, traditionnels pour parler de la Gaule et des Gaulois et comment tissent-ils tout ça pour pouvoir justement faire le petit catéchisme républicain du Petit Lavis ou ensuite du Malé-Isaac?
En fait, les historiens sont presque tous redevables, non pas à Michelet ou même à Lavis ou aux grands historiens. La Gaule, ça a été redécouvert par Henri Martin.
Ah, bah oui, alors, on n'a pas encore cité le nom d'Henri Martin.
Il fallait parler d'Henri Martin alors. Et c'est Henri Martin qui en s'empare pour la première fois dans son Histoire de France, alors que Michelet en avait fait une
populaire de la France, c'est ça ?
Oui, c'est ça. A développé, franchement, le thème gaulois avec l'équivalence.
Le caractère gaulois a subsisté chez nous tous. Comme leur c'est sang ça. A passé de génération en génération dans nos veines, Jeanne d'Arc était une héroïne gauloise qui était annoncée par les obscures prédictions attribuées au vieux prophète celtique Merlin. Donc là, on fait bien, c'est tranquille. Bon, Merlin, on a Merlin qui annonce Jeanne d'Arc et on est tranquille, on peut ensuite
dormir tranquille. Et puis c'est lui qui pense aussi que nous ressemblons toujours plus ou moins physiquement et moralement à nos ancêtres gaulois. Nous sommes grands, blonds, avec une propension à la division, un peu enfantin parfois, gaulois aussi, comme on dit, c'est-à-dire faisant des plaisanteries. Enfin bon, et c'est lui
qui synthétise
dans un ouvrage qui a le mérite d'être beaucoup plus accessible que Michelet ou Lavis, et qui a eu des dizaines d'éditions, et plusieurs versions, dont des versions illustrées. Et donc, ce pauvre Henri Martin, que j'avais oublié tout à l'heure, est un des responsables.
Mais vous n'êtes pas toute seule à l'avoir oublié, Colette Beaune, parce que c'est vrai qu'il est un peu oublié
quand on cite, effectivement. C'est quelqu'un qui a une grosse importance. Bon, ce n'est pas de l'histoire très originale, je ne dis pas ça. Parce que, par exemple, il ne tient absolument pas compte des découvertes archéologiques.
Oui. C'était justement ma question.
voilà.
À quel point, justement, ces découvertes et ces fouilles de la fin du 19e siècle influent sur les historiens ? On sait bien qu'il y a...
Elles influent très, très peu. Il n'y a pratiquement rien chez Henri Martin. Et on peut chercher, avec les images des Gaulois, à savoir quand le Gaulois recommence à ressembler à un Gaulois archéologique. Oh, eh bien, il faut attendre 1880, pratiquement.
Donc, il y a un Gaulois archéologique et un Gaulois des textes.
Ben, le premier Gaulois que nous ayons, les premières représentations de Vercingétorix, il a une couronne sur la tête, il est habillé exactement comme Clovis. Et franchement, s'il n'y avait pas marqué Vercingétorix en bas, eh bien, on ne le saurait pas.
Laurent Olivier, sur ce point ?
Ce que je trouve absolument fascinant, c'est que la Gaule et les Gaulois, c'est une sorte d'outre à fantasme. les Gaulois, c'est le nom du plus ancien peuple qui soit connu avant les Romains. Et donc, dès qu'on parle des Gaulois, dès qu'on évoque les Gaulois, on évoque nos origines. Et en fait, c'est cette vision-là qui transparaît. Si c'est aussi difficile de changer, comme l'évoquait Olivier Buxenschütz tout à l'heure, l'image des Gaulois, c'est parce que cette image a une fonction. Et cette fonction, elle est de dire qu'est-ce que c'est l'origine de la civilisation, qu'est-ce que c'est le passage à la barbarie, à l'état d'homme civilisé. Et les Gaulois, ils remplissent cette idée-là. On pourra considérer et apprécier la civilisation des Gaulois quand, comme le disait, c'est Mauss qui disait ça, il disait il n'y a pas de civilisation inférieure, il y a des civilisations différentes. Quand on sera capable de dire, oui, c'est une civilisation différente, qui pratique des sacrifices humains, qui ne nous ressemble pas, qui a un art qu'on peut effectivement considérer comme grossier parce qu'il n'est pas réaliste comme l'art gréco-romain, etc., etc. Ça n'est pas inférieur, c'est différent. Mais aujourd'hui, tout le monde pense, et beaucoup d'archéologues le pensent également d'une manière implicite, qu'effectivement, il y a une infériorité de civilisation avec la culture gauloise par rapport aux grandes civilisations classiques méditerranéennes.
Alors tendez tous l'oreille et toute l'oreille. Donc, une archive de 1953, 30 mars 1953, la civilisation romaine, César à la conquête de la Gaule, par Jules Tontin. Jules Tontin qui était en lien quelque part avec l'histoire d'Alésia, d'après ce que je crois savoir, puisque c'était quelqu'un qui, au début du XXe siècle, m'a dit Anaïs Quien, avait entamé ou réentamé de nouvelles fouilles sur ce terrain.
Le nom d'Alésia évoque l'un des événements les plus importants de notre histoire. L'influence de cet événement a été des plus puissantes sur l'avenir de la Gaule, sur la destinée de César, sur le rayonnement de la grandeur romaine. Le problème posé est multiple et complexe. Une première question à laquelle il est nécessaire de répondre est celle de l'emplacement exact de la ville antique qui portait le nom d'Alésia. Jusque vers le milieu du XIXe siècle, on s'accordait à reconnaître que l'antique Alésia occupait le mont Aussoy, colline élevée qui ferme à l'est la plaine des Laumes à près de 60 km au nord-ouest de Dijon. Depuis un siècle, d'autres régions de la France ont revendiqué l'honneur de posséder sur leur territoire le site autour duquel s'est déroulée, entre César et Vercingétorix, la bataille décisive pour l'indépendance de la Gaule.
Une archive de 1953, Jules Tontin, Olivier Buxenschütz, voilà, cette question-là existe en 53, elle existe encore aujourd'hui, puisqu'il y a des défenseurs des sites d'Alésia un peu partout sur le territoire, et que le travail des archéologues a du mal à passer quelquefois auprès justement de tous ces défenseurs-là.
Tout à fait. Alors d'abord, il faut rappeler que 1953, sauf erreur de ma part, c'est l'année des découvertes de la tombe de Vix, qui se produit en décembre la même année, et qui repousse le problème de l'urbanisation de la culture gauloise 5 siècles avant, et qui montre qu'on est complètement en dehors des clous, comme on dit. Alors pour ce qui est de l'identification d'Alésia, donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu déjà des articles, notamment là ce qu'on a fait avec Alain Schnapp, sur les preuves archéologiques, puis il y a eu les fouilles de Michel Redé et de Zygmunt von Schnurbein, qui ont absolument montré que la géographie, la topographie, les traces en photographie aérienne, les traces des camps romains, les objets, les monnaies, au nom de Vercingétorix, prouver complètement que c'était là, sinon il faudrait prouver ce que c'est que ce site extraordinaire qui correspond à l'époque mais qui n'est pas Alésia. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'après la publication de la grosse synthèse de nos collègues des années 90-2000, le journal Libération a publié 4 articles de 2 pages sur des fausses Alésia, ce qui est quand même impressionnant. Soit ça remet en question les sources des journalistes, soit ça montre que vraiment l'archéologie pour les Français, ça n'a strictement aucun intérêt.
Soit ça montre qu'effectivement, les Gaulois et la Gaule, c'est encore une outre à fantasme, comme le disait tout à l'heure Laurent-Olivier Colette-Beaune. C'est une outre à fantasme.
Ah oui, si je prends une période plus reculée, eh bien, la localisation de l'ombilic des Gaules a été l'objet, c'est pareil, à l'époque médiévale, de fantasmes absolus, parce qu'on l'a localisé évidemment à Chartres, pays des Carnutes, c'était logique, et on a pensé que la cathédrale de Chartres succédait au sanctuaire des druides, ce qui était un peu plus logique. Et puis à partir du XIVe siècle, quand la France a été centrée sur Paris, il y a eu toutes sortes de travaux pour démontrer que l'ombilic des Gaules était à Paris et que le Parlement de Paris avait pour origine le Sénat des druides, la réunion des druides qui rendait la justice. Autrement dit, vous voyez que la localisation des phénomènes gaulois est susceptible de varier énormément en fonction de présupposés qu'on n'avoue jamais.
Alors c'est difficile quand on a un musée comme le musée ex des Antiquités nationales, devenu le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, créé justement dans cette grande époque de la deuxième moitié du 19e siècle, Laurent-Olivier, d'expliquer à un spectateur, à quelqu'un qui vient le visiter, que tout cela, c'est construction, reconstruction, que l'archéologie vient au contraire conforter certaines idées qui sont contrebattues par les médias ou par des groupes de pression de l'autre côté, ça doit être assez compliqué tout de même.
C'est tout l'enjeu de l'archéologie. Je pense qu'avec cette question de l'emplacement d'Alésia, je crois qu'au total, on doit en être à plus de 60 sites qui se partagent l'authenticité de la localisation d'Alésia.
Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas eu 60 Alésias, par exemple ?
Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est une survivance extrêmement archaïque de l'archéologie. On ne fait pas d'archéologie avec le livre de César à la main pour essayer de localiser les sites. C'est pas comme ça qu'on fouille aujourd'hui. Alors évidemment, ça ouvre la voie à tous les malentendus. Oui, César n'emploie pas exactement le terme qui semble coïncider avec ce qu'on observe sur le terrain. Oui, si on fait la technique du portrait robot, on peut trouver plein d'autres sites beaucoup mieux adaptés au récit de César, etc., etc. Mais ça, je dirais que ça, c'est pas de l'archéologie pour ce qui nous concerne. C'est pas comme ça qu'on fait de l'archéologie. Ça, c'est des débats de philologie, mais ça n'est pas de l'archéologie. L'archéologie part du terrain et part de l'évidence du terrain et cherche à en faire quelque chose. C'est un débat qui ne nous concerne pas en réalité.
Alors, un débat qui concerne les archéologues, c'est la renaissance, pourrait-on dire, du travail archéologique sur la Gaule au XXe siècle, et plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle, après un fort moment d'apaisement, pourrait-on dire, et surtout à partir des années 60, voire des années 80, sous l'égide en particulier de la présidence de François Mitterrand, Olivier Buxenschütz, la redécouverte, par exemple, de Bibracte, enfin du Mont Beuvray, la redécouverte d'autres sites, et un nouveau travail entrepris justement autour de cette histoire, tardivement, avec un long moment de latence entre ces premières fouilles de la deuxième moitié du 19e siècle et ces fouilles de la deuxième moitié du 20e siècle.
Oui, pour aller vite, si vous voulez, le 19e s'achève avec les deux publications au début du 20e, le manuel d'archéologie de Joseph Deschlet, qui va être utilisé par toute l'Europe jusque dans les années 70, et les 8 volumes de Camille Julien sur l'histoire de la Gaule, qui, comme on l'a vu, ne s'intéresse pas à l'archéologie. Enfin, pour lui, l'archéologie, c'est les inscriptions et les sculptures. Et donc, on a cette dichotomie, et entre les deux guerres en France, l'archéologie est une situation catastrophique, il y a très peu de fouilles. Il y a l'affaire de Glozel, qui est une catastrophe, parce que c'est un faux, et que donc, ça remplit les bibliothèques.
Une fouille archéologique, c'est faux. Le fouille archéologique en Auvergne, justement, du côté de Vichy, d'ailleurs.
Voilà. Alors, oui, en plus, d'ailleurs, bref, n'ouvrons pas le dossier de Glozel, c'est pas la peine, on est déjà sur Jeanne d'Arc.
On a déjà beaucoup parlé, non, mais en plus, déjà, tous les auditeurs qui défendent Glozel ou qui défendent d'autres sites pour Alésia vont nous écrire, donc vous pouvez continuer.
Voilà. Allez-y. Donc, si vous voulez, je pense que ce qui a vraiment été développé après la guerre, c'est le fait que tout l'aspect, justement, urbain des oppidas, donc de ces sites fortifiés attaqués par César pour certains d'entre eux, a complètement noyé l'historiographie, le fait de savoir si César était passé là ou pas. Et puis ensuite, j'irai comme la cerise sur le gâteau, en fait, on a fait quelques vérifications qui ont montré que ces sites urbains et leurs voisins, il y en avait qui correspondaient effectivement au texte de César sans problème, et que ce qu'avaient fait les militaires de Napoléon III était correct. Mais si vous voulez, je dirais à la limite, on s'en fiche. Hein. Et même le colloque sur Teutoburg et Alésia, donc, qui a réuni les collègues allemands et français, puisqu'on a retrouvé la bataille de Teutoburg, ce qui était beaucoup plus difficile, parce qu'il n'y a pas de site fortifié, c'était un petit peu un jeu. Hein. Mais en réalité, c'était pour liquider cette question-là. La localisation des sites, elle est acquise. Uxellodunum, le site de 51, a été localisé également. Mais je dirais pour nous, c'était presque un jeu, et les enjeux ne sont pas du tout là. Les enjeux, c'est la culture gauloise, c'est son originalité, et c'est la déconnexion complète avec notre propre culture,
oui, mais
parce que ce ne sont pas nos ancêtres.
C'est ce qu'on peut dire quand on est un archéologue comme vous, Olivier Buxenschütz, mais on sait bien que l'histoire n'appartient pas ni aux archéologues ni aux historiens, elle appartient à nous tous, et que quand le grand rénovateur, après Napoléon III, du site de Bibrac, c'est-à-dire François Mitterrand, va en 1984 ou 1985 pour inaugurer, ce centre qui doit être un centre de recherche très avancé sur cette culture de cette époque-là, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il fait un discours sur l'unité nationale. Ce n'est pas exactement ce qu'attendaient les archéologues, j'imagine, de votre génération.
Nous, on attendait un discours sur l'Europe. Mais c'est pas... Enfin... C'est pas mieux, je dirais. De toute façon, c'était pas un discours sur Bibracte, voilà.
Oui, mais c'est quand même très étrange, ça, Laurent Olivier. Ça n'appartient pas, ce discours-là, il transpire ailleurs, il va ailleurs. Et quand on fait des recherches et qu'on travaille de façon sérieuse sur les textes, on se dit, mais pourquoi on n'arrive pas à imposer notre vision? Ben parce qu'il y a assez de visions concurrentes et qui sont peut-être plus satisfaisantes, non pas intellectuellement, mais pour le grand public. Et puis que ces visions qui viennent contrebalancer cela. Des chercheurs ne rentrent pas dans cette norme-là.
Je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, la question des origines, ça n'est pas la propriété exclusive des chercheurs, des historiens, des archéologues. Et fort heureusement d'ailleurs, c'est un enjeu social.
On va le voir avec le débat sur l'identité nationale.
Il faut dire aussi que les archéologues ne détiennent pas forcément la vérité sur ces périodes-là. On s'en rend compte quand on regarde, quand on examine l'histoire de l'archéologie, où on a une période où justement la question nationale est bas de l'aile. Mais on s'en rend compte avec d'autant plus d'acuité pour les périodes plus anciennes, que ce sont des questions qui ont vraiment dominé la recherche au 19e siècle et pendant la plus grande partie du 20e siècle. Ces questions de qu'est-ce que c'est que l'identité d'une ethnie, qu'est-ce que ça veut dire, une culture véritablement autochtone, etc. Dès qu'on manipule ou dès qu'on évoque cette question des Gaulois, on est de fait dans ces questions-là. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir justement que c'est un jeu complexe d'interprétation et de point de vue sur la question.
Oui, mais ça c'est compliqué, Colette Beaune, justement, de s'intégrer dans cette affaire-là. Une fois que tous les historiens de votre génération ont déconstruit, ont justement raconté comment le récit national ou le roman national s'était créé, comment il était conjoncturel, il répondait à un besoin d'un moment, comment ce moment étant passé, il fallait s'en débarrasser. Et malgré tout, il y a toujours un reste de ce récit-là qui reste dans la tête de beaucoup de nos compatriotes. Et qui fait que c'est difficile de débattre dans ces conditions-là avec la plupart des Français qui n'ont pas l'occasion d'aller lire vos livres, d'aller lire les travaux des archéologues sur certains sujets comme la Gaule, par exemple.
Je pense en fait que c'est le problème de la nation a quand même changé. Au 19e siècle, on cherchait des origines réelles, des origines ethniques, des gens dont on puisse descendre par le sang. même s'il y avait, tout le monde était d'accord, des mélanges avec les Romains, puisque les Gallo-Romains existaient, et puis des invasions franques et toutes sortes de mélanges. Quand même, globalement, on pensait que ethniquement, les Gaulois étaient nos ancêtres. À l'heure actuelle, personne ne pense à chercher si les Gaulois sont nos ancêtres ou pas. Enfin, peut-être le grand public, mais c'est un faux problème. Par contre, on peut essayer de penser, mais peut-être a-t-on tort, qu'il y a une communauté de culture qui est arrivée jusqu'à nous et chercher dans cette communauté de culture si les Gaulois ont eu un rôle ou n'ont pas eu un rôle. On peut arriver d'ailleurs à la négative, c'est une civilisation très différente, comme, mais nous,
il
en reste quand même quelque chose.
Laurent Olivier.
Ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont on a cherché ça. Parce que pendant très longtemps, on a cherché finalement à plaquer notre propre vision d'une nation sur les Gaulois. Par exemple, les Gaulois, c'était évident que c'est des gens qui parlent la même langue, qui parlent le gaulois. Encore certains de mes collègues sont persuadés de cette idée que tous les peuples celtiques parlent celtique.
Au XVIe, on pensait qu'ils parlaient le grec, d'ailleurs.
Voilà, oui. Absolument. Oui. Ce sont des gens qui ont un territoire qui leur appartient. Hein. Oui. Et ce sont des gens qui ont une culture commune. Ça, c'est ce qui identifie c'est l'idée nationale
c'est l'idée
traditionnelle
nationale du 19e, ça.
Qu'on a projetée sur la recherche de la civilisation gauloise pendant très très longtemps.
Mais
aujourd'hui, je ne sais pas, on est en plein milieu de ça, mais je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dans la pensée de... C'est Glissant qui évoque ça, la pensée de la créolisation, par exemple, qu'on peut avoir, que les cultures jouent par influence, par échange, qu'elles s'enrichissent de l'échange, au contraire, et qu'elles n'y perdent pas. Ça, c'était la vision du 19e siècle, la vision cossinienne de les cultures se détruisent quand elles s'ouvrent à l'extérieur. Hein, c'est la vision d'extrême droite, ça. Aujourd'hui... Il y a une évidence, c'est que il y a un multiculturalisme qui existe aujourd'hui, qui n'était pas aussi visible au XIXe siècle, ou qui pouvait exister dans des colonies, dans des contextes coloniaux. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui interpelle notre façon de voir.
Oui, mais est-ce qu'après avoir au XIXe siècle fait le parallèle entre Vercingétorix et Abdelkader, vaincus mais néanmoins acceptant la culture de celui qui les a vaincus, on ne ferait pas aujourd'hui la même chose en imaginant que cette Gaule était multiculturelle parce qu'on a envie Laurent Olivier, qu'elle le soit.
Oui, parce qu'on recherche toujours dans le passé la réponse à des questions ou à des préoccupations qui sont celles d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que l'étude du passé est absolument inépuisable.
Olivier Bixenschut.
Oui, je crois qu'en fait, il faut complètement déconnecter l'étude de ces cultures de la nôtre. Parce que dans vos deux interventions, vous avez bien souligné que par rapport à nous, qu'est-ce qu'ils sont ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est multiculturel et métissage, on cherche ça. Mais ce n'est pas forcément ça qu'on trouve.
Moi, j'ai même trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'encontre de cette thèse qui
Ce qu'on trouve, c'est que de temps en temps.
Volontariste.
Par exemple, au niveau de phénomènes du 6e siècle avant notre ère, il y a une unité qui se trouve au centre de l'Europe. Au 2e siècle avant notre ère, 1er siècle avant notre ère, ces fameuses villes assiégées par César, elles ont toutes les mêmes boutons de culotte, si vous voulez, d'un bout à l'autre de l'Europe. Donc là, il y a une certaine unité. D'un autre côté, sur les textes, effectivement, César lui-même dit que les gens de Gaulle ne parlent pas tous la même langue. Donc il ne faut pas qu'on parte à l'autre extrême. Il y a aussi le problème des territoires. Alors effectivement, derrière Vidal de la Blache, on a construit des territoires gaulois qui correspondent à quasiment nos départements. Sauf que quand on compare la diffusion, l'aire d'approvisionnement d'un supermarché actuellement avec celle d'un oppidum, ça tombe pas mal. Ça marche. Il y a des trucs qui marchent. Et c'est vrai qu'il y a des territoires autour des oppidums qu'on peut démontrer par les méthodes d'analyse statistique spatiale ou autre. Et donc, les Gaulois, ils sont tout ça. Ils sont tantôt unis, tantôt désunis. Simplement, il ne faut pas chercher à les rapprocher de nous. Il faut les étudier pour ce qu'ils sont.
Anaïs Kien.
D'ailleurs, tous les Gaulois ne participent pas à la bataille d'Alésia et ne répondent pas à l'appel de Vercingétorix, Olivier Buxenschütz.
Bien sûr. Enfin, ça, c'est des problèmes vraiment d'historiographie. C'est plus de l'archéologie. Mais il n'y a pas d'unité chez les Gaulois. Mais vous voyez, dès qu'on dit ça, ça veut dire, ah, hop, on retombe dans un cliché du 19e.
À savoir qu'ils sont divisés.
Mais il n'y a pas d'unité en Italie non plus. Je veux dire, les Romains, ce sont...
Indisciplinés.
Ce sont des gens qui ont fait une unification très tardive. Et une autre chose importante, c'est qu'on fait aussi le parallèle. Enfin, en fait, je crois que les Français ont l'idée qu'il y a l'Empire romain d'un côté et la Gaule de l'autre. C'est pas du tout ça. L'Empire romain n'existait pas à cette époque-là. Et parmi les constructeurs de l'Empire romain, il y a les Gaulois qui adhèrent à l'Empire romain, j'allais dire très très rapidement, comme on a adhéré à l'Europe en avançant et en reculant.
Oui, ce qui fait effectivement se distinguent ou qu'on les distinguera plus tard effectivement des Germains qui eux n'ont pas voulu adhérer à justement cette civilisation.
Il y a des Romains en Gaule et des Gaulois en Italie.
Tout à fait. On oublie souvent qu'il y a pas mal de Gaulois en Italie depuis le 4e siècle.
Colette Beaune, pour conclure cette émission donc consacrée aux Gaulois, en sachant que demain, nous aurons un documentaire sur un fameux Gaulois, évidemment, qui nous a donné l'idée de faire cette semaine, à savoir Astérix. Il y a eu un colloque qui s'est tenu à l'université de Paris 13, où se trouvait donc Anaïs Quien, et donc nous avons ramené des entretiens qui seront montés en documentaire demain autour de cette figure d'Astérix et de cette rêverie autour de la Gaule, donc née de l'esprit de Goscinny et sous la plume d'Uderzo. Quand vous entendez la discussion sur l'identité nationale qui va monter, et on va parler pendant 2 ou 3 mois, est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui, il est temps à nouveau frais de réfléchir à cette question-là? Est-ce que les historiens ont quelque chose à dire sur cette question-là? Ou est-ce qu'au contraire, il faut surtout ne pas rentrer dans ce type de débat voulu par le politique? Est-ce que l'instrumentalisation du 19e siècle, de l'histoire par les politiques du 19e siècle, nous dit surtout n'allons pas là-dedans?
Je pense que les historiens et le grand public, beaucoup plus encore que les historiens, ont de la peine à essayer de concevoir une histoire de France, à supposer que la notion même d'histoire de France ait un sens, comme dépourvue d'unité. Et puis, nous avons tendance à penser qu'il y a des origines et puis toutes sortes de périodes,
des
et
progrès.
Nous allons vers le progrès. Eh bien, bon, c'est pas vrai. Il n'y a pas à proprement parler d'origine. Il y a des allers et retours. Et il y a des choses qui ne s'enchaînent pas du tout. Il y a des possibilités qui apparaissent, mais ne sont jamais utilisées. Et donc, voilà, l'histoire de France n'a pas le côté, aucune histoire d'ailleurs, n'a le côté rassurant, téléologique, si vous voulez, que les politiques voudraient bien qu'elles aient.
Et donc, ça veut dire qu'il faut, on peut le mettre en débat, mais simplement
éviter... Je ne suis pas contre le fait que les politiques s'intéressent à l'histoire, ni qu'ils citent les historiens, ni qu'ils citent des personnages. Il est normal de penser avec des références.
Mais il ne faut pas, en revanche, que ça conduise à un discours unifié.
Un discours unifié et obligatoire, non. Ça a été le cas sous la Troisième République. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à ça.
Merci, merci Laurent Olivier, merci Olivier Buxenchus, merci Colette Beaune. Je rappelle, Colette Beaune, que vous êtes auteur d'un fameux livre, justement dans la collection de la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard, Naissance de la Nation France, qui vient d'être republié au printemps dernier, d'un Jeanne d'Arc qui a beaucoup fait couler d'encre également, Vérité et légende chez Perrin. Pour votre livre, Laurent Olivier, il s'agit du sombre abîme du temps. Et merci encore donc d'être venu pour essayer de démêler le vrai du faux, si c'est possible. Je crois que sur certains points, on l'a démêlé, donc le vrai du faux, et en particulier la légende des Gaulois et des Gauloiseries.
Restons français, soyons Gaulois, la Gauloiserie, ça c'est ma loi. Moi je dis fini l'érotisme, restons français, soyons Gaulois, et je suis fier.
Les années 60, celles de Jacques Dutronc, mais également d'Astérix, soyons français, restons gaulois.
Érotisme, érotisme.
Une émission préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marseille. Le site internet est tenu par Antoine Lachan. Vous pouvez écouter les émissions pendant un mois, les télécharger pendant une semaine et trouver des bibliographies complémentaires, bien évidemment. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric, à la réalisation, Véronique Samouilov.
Il suffit.